Une œuvre et une vie ce matin, ou plutôt sans vie. L'expression est de Philippe Solers à propos de Claude Lanzmann. Et il faut dire qu'elle sonne très juste à lire ses mémoires qui paraissent enfin chez Gallimard. Bonjour Claude Lanzmann.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes l'invité de France Culture, l'invité spécial de notre antenne aujourd'hui à l'occasion de la publication du Lièvre de Patagonie. 546 pages serrées d'un livre très attendu où vous reprenez le fil de vos itinéraires, de vos engagements, de vos passions, de vos amours aussi. On y croise Sartre, Beauvoir, Frantz Fanon et j'en passe, des étapes fondatrices. Votre combat tout jeune dans la résistance sous l'occupation, la naissance d'Israël, l'indépendance algérienne, l'archéologie de ce monument qu'est Shoah. On a l'impression de vous connaître, Claude Lanzmann. Votre silhouette, elle est familière, à la fois votre corps et puis votre œuvre. Pourquoi avoir eu le besoin de reprendre ce fil ?
Attendez, on a l'impression de me connaître d'abord parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur cette terre. Et que je n'ai d'ailleurs pas l'intention de quitter très vite. Mais pourquoi est-ce que j'ai éprouvé le besoin de reprendre ça ? C'est parce qu'il me semble que tout ce que je dis est neuf et qu'on devrait découvrir, me lisant, qu'on ne me connaissait pas. C'est-à-dire, j'ai accumulé sur ma personne... il y a des gens qui m'aiment beaucoup. J'ai des admirateurs, j'ai des amis, mais il y en a d'autres qui me haïssent, et pas mal. Et il y a beaucoup de préjugés sur mon compte, d'idées...
Reçues,
toutes faites, imbéciles, souvent. Et je pense profondément que les gens ne me connaissent pas.
Mais
parce qu'on dit, Lanzmann, ah oui, c'est Monsieur Shoah, Lanzmann est propriétaire de la Shoah, ne supporte pas qu'un autre...
C'est les temps modernes, c'est Sartre, c'est Beauvoir.
Oui, Beauvoir, elle a été très importante dans ma vie et je le montre dans ce livre.
Mais c'était pour restituer une forme de complexité derrière les images d'Épinal qui surgissent dans l'esprit dès qu'on évoque le nom de Claude Lanzmann.
Vous avez raison, ce n'est pas une forme de complexité, c'est une complexité très réelle. Je suis un bonhomme complexe. Bon, je le pense profondément, il me semble que ce livre le montre. Et... je pense que nous le sommes tous, complexes. Il y a des gens qui le sont plus ou moins. Et je le suis pas mal. Et moi, écrivant, ça m'arrivait de me dire, bon, comme ce type est gentil, comme ce type est sympathique, j'avais l'impression que tous mes ennemis devraient soudain me comprendre et se mettre à m'aimer.
Vous aviez l'impression de faire un travail de mémoire ou d'écrire quasiment un roman ? Parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas pour le coup, et à lire votre vie ou quelques étapes importantes de votre vie, on a l'impression de lire un roman.
C'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous. Et l'écrivant, et c'était un grand plaisir d'ailleurs, je trouvais que beaucoup de chapitres avaient un caractère romanesque. Et quand je jugeais que certains ne l'avaient pas, ça m'embêtait d'abord. Et je m'arrangeais pour changer les choses. Et c'est le fait que vous avez raison de parler de romanesque et de roman. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de trouver le ton juste pour parler de sa vie et avec une certaine distance, un certain éloignement. Dans Shoah, c'était pareil. Moi, il n'y a pas de... J'avais besoin que ça se passe loin de moi, d'une certaine façon, hors de la durée humaine. Cela n'avait pas pu se passer de mon temps. C'était trop, trop affreux, trop horrible. Et concevoir certains chapitres de ma vie... vous savez, en latin, il y a une expression, je ne sais pas qui a fait du latin ici. Sûrement.
Alain Gérard Slama qui vient de nous rejoindre, et vous verrez, il est excellent en traduction simultanée du latin au français.
C'est ça.
Slama, je suis sûr de ça, mais dans les... dans les préfaces de Racine, aux tragédies de Racine, vous avez très souvent l'expression, la préface de Bajazet par exemple, « Major et longinquo reverentia », ce qui veut dire la révérence, le respect, croit avec la distance, avec l'éloignement. Eh bien moi j'avais besoin d'éloigner ma vie de moi-même pour l'écrire, mais en même temps elle est très présente. Mais c'est pourquoi, c'est pas moi. Moi je suis fier d'une chose dans ce livre, je dis il n'y a pas une once de narcissisme dans ce livre.
Et c'est plutôt surprenant. C'est plutôt surprenant, je le dis de manière un peu moqueuse, Claude Lanzmann, mais c'est vrai.
Ah ben voilà.
Mais le titre, il est plutôt mystérieux. Le lièvre de Patagonie. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'animal, Claude Lanzmann ?
J'aime les lièvres. J'aime les lièvres. Je vais vous dire comment cet amour pour les lièvres est né. D'abord, je me souviens, dans une grande forêt de Serbie, la nuit, j'étais avec Simone de Beauvoir, conduisant une guimbarde. Et comme c'était un génie de la lecture des cartes, c'était une breveté d'état-major, véritablement. Moi, elle avait inventé un raccourci qui nous a fait se perdre dans un dédale de forêts interminables. Et les lièvres pullulaient, n'avaient pas été chassés. C'était pas longtemps après la fin de la guerre et ils surgissaient de tous les côtés. Je les trouvais beaux. Et puis je faisais tout pour ne pas les tuer. Je slalomais littéralement entre les lièvres et on en a quand même tué trois. Bon, j'en ai tué trois. Et mon cœur saignait. On s'arrêtait dans les villages pour les donner aux paysans qui se précipitaient dessus. Ça, c'est une chose. La deuxième, aussi importante, c'est que quand je tournais Shoah à Auschwitz, à Birkenau, en hiver, comme ça, il y a un plan, mais un plan sans insistance dans Shoah, j'ai fait exprès de ne pas insister, on voit deux lièvres qui sont arrêtés par des barbelés et qui ne savent pas comment passer, qui inventent le chemin, leurs pattes arrière s'affaissent, littéralement, et puis ils réfléchissent un moment et ils se glissent sous les barbelés. Et j'ai monté ça sur la voix off d'un des plus grands héros de Shoah et de toute l'histoire de la guerre, Rudolf Verbach, qui s'est évadé véritablement de Auschwitz, bon, avec un courage, un culot. C'est un grand homme qui était professeur de pharmacologie à l'université de Vancouver. Hélas, il est mort, et des hommes comme ça ne devraient jamais mourir. Bon, et ces lièvres sont très importants pour moi. Et alors, la troisième chose, c'est le sens du titre, c'est que le monde, pour moi, n'est pas un décor. Bon, si c'est un décor, je peux le trouver beau, etc. Mais enfin, il n'y a pas de détonateur, si vous voulez. Par exemple, mon premier voyage en Italie dans un wagon de marchandises en 1946, j'étais à Milan sur la place du Dôme, Piazza del Duomo. J'étais conquis par les couleurs de Milan. C'est la première fois que je voyais des couleurs, alors que Milan est une lourde ville lombarde, pas tellement drôle. Bon, et j'étais sur la place du Dôme et je me disais « Tu es à Milan, tu es à Milan », je m'apostrophais moi-même. Tu es à Milan, mais je n'avais pas l'évidence d'être à Milan. Et soudain, m'est venue dans la tête la première phrase de la Chartreuse de Parme de Stendhal, le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Eh bien ça, ça a été le détonateur. Et j'étais à Milan. Treblinka, c'est pareil. Quand j'ai vu soudain qu'il y avait un village, la rencontre d'un nom et d'un lieu. Bon, quand j'ai vu soudain qu'il y avait un village vivant, avec des gens vivants qui avaient été les témoins de tout ça, qui s'appelait Treblinka, qui osait encore exister, alors que je voulais pas du tout aller en Pologne, soudain, là, j'étais comme une bombe chargée de savoir, d'enquête, de lecture. Et la bombe que j'ai... Mais le détonateur manquait. Le détonateur, ça a été la Pologne. J'ai explosé, je me suis mis à tourner très vite. Bon, alors, la Patagonie. J'ai été deux fois en Patagonie, tout seul. J'ai loué une... je suis parti en avion de Buenos Aires jusqu'à un village, non pas du Far West, mais du Far South argentin, près de la Terre de Feu, qui s'appelle Rio Gallegos. Là, j'ai loué une voiture, et puis j'ai remonté toute la grande plaine aride et désertique de la Patagonie argentine en allant vers le Chili, parce que je voulais voir les glaciers qui sont des patrimoines de l'humanité, de l'UNESCO, les fameux glaciers qui se jettent dans les lacs, le Perito Moreno, etc. Et puis, si on s'approche de trop, on entend toute la vie intérieure du glacier, les gémissements, de temps en temps, il lâche une flèche acérée comme un poignard. Si on est trop près, ça vous transperce le cœur. Bon, et alors là, je me disais, mais mon coco, tu es en Patagonie. Hein, tu devrais être fou de bonheur, ce grand ciel infini. Et j'étais content, oui, mais j'étais tout seul, là. Mais l'étincelle ne se produisait pas. Et j'ai même rencontré des troupeaux de lamas, des vigognes, pareil. Et au soir, à la nuit tombée, je me trouve dans un bled qui s'appelle El Calafate, d'où on aperçoit le mont Fitzroy, c'est magnifique. Je me suis mis à emprunter une mauvaise piste sur 90 km pour rejoindre le Perito Moreno. Et soudain, j'ai vu un lièvre formidablement grand se jeter sous mes phares, dans le faisceau de mes phares. Et là, ça a été l'explosion, la joie absolue. J'étais en Patagonie, j'en étais sûr. La rencontre de ce nom très beau, Patagonie, il y a des noms comme ça, Patagonie, Calédonie.
Il y a une poème, joie sauvage.
Il y a un poème de Walter Scott, « Oh, Caledonia stern and wild, meet nurse for a poetic child », etc. Bon, et là, j'étais fou de bonheur, j'avais 70 ans, hein. Mais j'ai terminé mon livre comme ça, tout mon être... était en proie à une joie sauvage.
Une joie, ça ne change pas. Sauvage. Vivre sa vie à chaque épisode comme si on avait 20 ans. Et c'est ce qui est stupéfiant à la lecture de ce livre, Claude Lanzmann. Les derniers mots sont comme à 20 ans. Et c'est un peu le sentiment qu'on a à la lecture de ces mémoires. C'est que vous avez vécu toute votre vie comme si vous aviez 20 ans peut-être aussi. La mort, on va y revenir puisque c'est l'un des fils rouges du Lièvre de Patagonie. Il est 8h05. Alain Gérard Slama nous a donc rejoint. Le temps dépassé, Alain Gérard, bonjour.
Oui, pas le temps passé, le temps dépassé, bien sûr. C'est un bel accomplissement, cher Claude Lanzmann, que d'avoir réussi, je vous envie, en un livre destiné à retenir l'essentiel, à donner une unité à votre vie. Ce livre m'est allé droit au cœur, je vous le dis sincèrement, parce que il est celui d'une génération qui est à la fois la vôtre et celle qui a précédé la vôtre. Et je ne dis pas seulement ça parce que Sartre avait 20 ans de plus que vous, que Simone de Beauvoir avait été votre aînée de près de 17 ans, mais parce qu'on retrouve dans votre culture, dans votre mémoire, dans votre imaginaire et jusque dans votre style, cet émerveillement, cette confiance dans l'héroïsme révolutionnaire, ce lyrisme égotiste, ou cité Stadal, cette capacité de retenir le passé, tels qu'ils existaient chez nos grands romanciers d'avant-guerre et qui ont animé vos engagements de la décolonisation. Et en même temps, bien entendu, cette génération fut celle de la crise de l'humanisme, de la présence obsédante de la mort, de la remise en cause de la bonne conscience française, dont l'héritage culturel était d'autant plus amoureusement cultivé qu'on le sentait au bord de l'abîme. Et il y a des pages très belles de Sartre dans « Qu'est-ce que la littérature ?» en 1947, sur cet esprit-là des années 30. Ce n'est pas un hasard, me semble-t-il, si vous évoquez d'ailleurs dans ce livre la guerre d'Espagne, notamment l'épisode des cadets de l'Alcazar, et si deux des évocations les plus émouvantes de votre livre sont celles de deux suicides, celle de votre sœur et celle de Josie Fanon, la veuve de Franz. Et puis vous êtes bien entendu l'homme de votre génération, que la conscience de la clôture de la période précédente a tourné vers une volonté de plus en plus affirmée de ne pas être dupe de l'avenir et a détourné vos regards vers le vaste monde. Très singulier, car vos prédécesseurs, eux, si on excepte Malraux, n'ont guère voyagé. À cet égard, trois traits m'ont particulièrement frappé. Le premier, c'est le désenchantement par rapport au communisme à l'occasion de vos voyages en Allemagne de l'Est, le plus tumultueux, ou en Corée du Nord. Le second, c'est votre rupture avec le FLN. Quand vous avez découvert la contradiction entre cet engagement et puis l'existence de la cause d'Israël. Le troisième, c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus. C'est page 237, Ali. Le passage dans lequel vous dites « En un sens, je suis un vieux Français, d'une francité ancienne, bien plus ancienne en tout cas que celle de beaucoup de Juifs français. Mon cœur est né à Paris le 14 juillet 1900. Ma famille est en France depuis la fin du 19e siècle. Je m'éprouve si solidement français, oserais-je dire, qu'Israël n'a jamais été un problème pour moi. » Et ces mots-là, Léon Blum, de la génération précédente, aurait pu les écrire. Il les a quasiment prononcés à la Chambre des députés quand il est devenu président du Conseil lors de la campagne antisémite qui avait été menée contre lui. Mais vous poursuivez en indiquant qu'en même temps, les Juifs de toute provenance que vous rencontrez en Israël vous renvoient à la contingence de votre appartenance nationale. La rencontre avec Israël, écrivez-vous, me dévoilait d'un même mouvement irréductiblement français et français de hasard. Pas du tout de souche. Et cela, il est probable que Blum ne l'aurait pas écrit. Et vous êtes l'homme à la fois d'une époque et de la sortie de cette époque. Autrement dit, voilà ce que le sentiment que j'ai eu en lisant ce livre vraiment passionnant. Bien entendu, ça vous faisait de vous l'homme de la Shoah, d'une certaine façon. On voit bien vous dire que vous ne pouviez pas ne pas être cet homme-là par cette culture que vous avez assumée tout en la dépassant, ou dépassée tout en l'assumant, je sais comment il faut le dire, et qui vous décidait à vous faire la chambre d'écho d'un monde que rien n'avait préparé à concevoir. Cette inconcevable catastrophe.
Merci Alain Gérard. Un commentaire, Claude Lanzmann.
D'abord, ce que dit Alain Gérard, c'est un mot que je respecte beaucoup, qu'il m'arrive d'admirer, me fait plaisir. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je crois que je débouche sur, après avoir dit ce que Gérard vient de rappeler, je débouche sur ma posture fondamentale, qui est la seule posture pour moi du témoignage, à savoir j'ai besoin d'être dedans et dehors.
Mais vous sentez contemporain de votre époque, Claude Lanzmann, aujourd'hui ? Ou est-ce que vous avez le sentiment d'être en décalage par rapport à notre monde ?
Non, je me sens complètement contemporain, ça ne veut pas dire que je l'adore. Mais je me sens complètement contemporain, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Je ne vis pas dans le passé. Moi, je n'ai jamais dit « de mon temps ». Ça me fait horreur.
Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'expression « de mon temps » ?
De mon temps, ça veut dire qu'on est fini, on est retiré de tout. Enfin, non, je suis retiré de rien.